Vie fondamentale, 1er mars 1984, Père Philippe Saint-Joseph.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous.
Article 4, on l'avait vu, mais je le reprends peut-être rapidement. Les bonnes œuvres, la question, la prophétie requiert-elle de bonnes œuvres? Mais au fond, c'est toute la question, je vous ai déjà dit, qu'il faut essayer de comprendre, qui est une question très difficile et qui est remise aujourd'hui en question, la question des charismes et de la grâce sanctifiée. La grâce sanctifiante, c'est la grâce d'habitation de Dieu en nous. C'est la grâce qui nous sanctifie. C'est une grâce qui est donnée personnellement, qui est reçue dans l'âme, au plus intime de l'âme. Et puis, il y a les charismes. Les charismes sont donnés pour la communauté. La communauté soit plus chaude, moins lourde, qu'elle soit plus aérienne. C'est ça. Alors quand la communauté est lourde, il manque de charisme, il faut souffler. Le Saint-Esprit donne ses charismes. Le charisme, c'est pour l'utilité de la communauté. C'est évident que c'est en vue de la croissance de la grâce sanctifiante. C'est-à-dire, c'est en vue de la charité fraternelle. Parce que la grâce sanctifiante s'épanouit dans la charité fraternelle. La grâce sanctifiante nous sanctifie. Je veux dire, la charité fraternelle nous sanctifie et glorifie le Père, comme il est dit dans Saint Jean. N'est-ce pas ? Les charismes ne sont pas la charité fraternelle, mais ils sont dans de l'utilité vis-à-vis du bien commun, vis-à-vis de la communauté. La communauté chrétienne a comme bien commun le Christ. Le bien commun, c'est le Christ dans les âmes. Le Christ habitant en nous. Le Christ demeurant au milieu de nous. C'est ça le propre, je dirais, du bien commun de l'Église. Et de toute vie commune. Le bien commun, c'est la présence de Jésus au milieu de ses membres. C'est la présence de Jésus vivant au milieu de nous et nous portant et nous offrant au Père. Donc, les charismes sont en vue de cette croissance de la présence du Christ, présent par la grâce sanctifiante, présent par la charité fraternelle, présent par la foi contemplative. Et les charismes sont là pour aider le témoignage. C'est l'espérance. La foi contemplative, l'espérance qui permet le témoignage, et la charité fraternelle qui permet l'unité avec le Christ. Bien, les charismes sont pour la croissance, l'édification de la vie commune, de l'Église, donc de la présence du Christ au milieu de nous. Ça n'a pas d'autre sens, les charismes, que de permettre cette présence plus parfaite du Christ au milieu de nous. Donc, alors, vous voyez bien quels sont les rapports, puisque parmi les charismes, un des charismes principaux, c'est le charisme de prophétie. C'est ça qui est un des charismes principaux, c'est la prophétie. Alors, quel est le rapport entre les bonnes œuvres, les bonnes mœurs, la charité fraternelle? Faut-il la charité fraternelle pour être prophète? La prophétie est en vue de la croissance de la charité fraternelle? Faut-il la charité fraternelle pour être prophète? Et les bonnes mœurs, il faut le comprendre de façon profonde. Alors voici, nous l'avons vu, je le reprends très rapidement, les bonnes mœurs. Donc c'est bonitas morum, peuvent s'entendre de deux manières. Dans leur racine intérieure, la grâce sanctifiante, par rapport aux passions intérieures de l'âme et aux actes extérieurs. C'est évident qu'il y a deux manières de regarder la bonitas morum. Où on la regarde d'un point de vue purement chrétien, c'est la charité fraternelle, qui s'enracine dans la grâce. Ou on la regarde de façon plus humaine, alors à ce moment-là, c'est l'exercice des actes bons, des actes vertueux et des actes extérieurs. Alors, premièrement, la grâce sanctifiante est surtout donnée pour que l'âme de l'homme soit unie à Dieu par la charité. Ainsi, saint Augustin écrit, « Celui auquel l'Esprit Saint n'est pas départi pour aimer Dieu et le prochain, celui-là de damné ne sera pas sauvé. Tout ce qui peut exister sans la charité peut donc se trouver sans la grâce sanctifiante et par conséquent sans de bonnes mœurs. Or, c'est le cas de la prophétie. Celle-ci peut en effet se rencontrer dans la charité, sans la charité. En voici deux raisons. Donc, la prophétie n'est pas liée essentiellement à la charité. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit des choses extraordinaires, merveilleuses, il semble bien que c'est un prophète, ce n'est pas nécessairement qu'il a une vie de charité parfaite. Quelquefois, c'est utile pour pouvoir dire des choses un peu lourdes, un peu dures, ne pas avoir trop la charité fraternelle qui est là, qui arrêterait. On aurait peur de faire du mal. Le prophète qui... Et c'est vrai, vous rencontrerez tout dans votre vie, surtout chez les charismatiques, des prophètes, Alors à ce moment-là, vous n'allez pas dire, est-ce qu'il est vraiment prophète? Est-ce qu'il a la charité fraternelle? Ce n'est pas nécessaire. Il peut être un vrai prophète. Dieu lui demande d'avoir une bonne intelligence. Pour les charismatiques, vous voyez, c'est utile. Bonne intelligence. Qu'ils soient bien développés dans leur intelligence. En voici deux raisons. Premièrement, l'une est tirée de leurs actes. La prophétie relève en effet de l'intelligence, tandis que la charité perfectionne la volonté. Or, l'acte de l'intelligence précède celui de la volonté. Aussi l'apôtre, dans sa première épître aux Corinthiens, énumère-t-il la prophétie parmi les dons qui se rapportent à l'intelligence et qui peuvent exister sans la charité. C'est très net. Ce qui est requis au prophète, c'est une bonne intelligence. C'est de bons fantasmes, ordinairement. Une bonne intelligence est liée à l'imaginaire et, si c'est possible, même une intelligence un peu poétique. Les poètes sont disposés à la prophétie. Pas toujours une prophétie divine, mais ils sont disposés à la prophétie. Très facilement, étant donné leur imagination, très facilement, ils peuvent croire que... Deuxièmement, la seconde raison est tirée de leur fin. La prophétie est donnée en effet comme les autres dons gratuites, en vue de l'utilité de l'Église. Selon ces paroles de l'apôtre, dans la même épître, la manifestation de l'Esprit est départie à chacun en vue de l'utilité. Toujours ça, l'enseignement de saint Paul. Ce n'est pas l'enseignement de saint Thomas, c'est l'enseignement de saint Paul. Donc quand on dit qu'il faut que le traité de la prophétie de saint Thomas soit révisé, disons, il faut que saint Paul soit révisé. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que ce que saint Paul nous dit sur les charismes reste vrai. C'est toujours très important de ne pas confondre le point de vue de la grâce sanctifiante et le point de vue de l'utilité de la communauté. Deux choses différentes. La prophétie n'a pas directement comme but d'unir à Dieu la volonté du prophète, ce qui est la fin de la charité. Voilà pourquoi la prophétie peut exister sans de bonnes mœurs, si on envisage la racine première de toute bonté morale, la grâce sanctifiante. Si au contraire, nous considérons les bonnes mœurs par rapport aux passions de l'âme et aux actions extérieures, la malice morale, sous cet aspect, peut-être un obstacle à la prophétie. La prophétie exige en effet une très grande élévation de l'esprit. Ça, c'est très intéressant. Parce que c'est par là qu'on voit comment il y a un lien entre le point de vue moral et le point de vue des charismes. et par le fait même la grâce sanctifiante. Hein. Parce que forcément, les vertus morales sont liées à la grâce sanctifiante. La prophétie exige en effet une très grande élévation de l'esprit. Recurritur maxima, elevatio mentis. Saint Thomas dit maxima, la plus grande élévation de l'esprit, vers la contemplation des choses spirituelles, pour contempler les réalités spirituelles. Or, à cela s'oppose la véhémence des passions ou la préoccupation désordonnée des réalités extérieures. Aussi lit-on dans l'Écriture, au sujet des fils des prophètes, qu'ils habitaient avec Élisée, menant ainsi une vie solitaire, ils n'étaient pas détournés du don de prophétie par les occupations de ce monde. Donc la vie religieuse, normalement, doit nous disposer à être des prophètes. Les préoccupations de ce monde. On est mis un peu à l'écart pour être disposé à recevoir le don de prophétie. Il va y avoir quelque chose qui nous permet d'être plus immédiatement lié au don de prophétie. Alors, première objection. Je crois que ça n'a pas beaucoup de difficultés une fois qu'on comprend bien les deux aspects. Il y a des raisons de le croire. Il est écrit dans le livre de la sagesse. La sagesse de Dieu se répand à travers les nations dans l'âme des saints. Elle en fait des amis de Dieu et des prophètes. Or, la sainteté ne peut exister sans les bonnes mœurs et la grâce sanctifiante. Il en est de même de la prophétie. Réponse. Le don de prophétie est quelquefois départi à certains hommes pour éclairer leur propre esprit en même temps que pour le bien des autres. Ce sont ceux dans lesquels la sagesse divine descend par la grâce sanctifiante et qu'elle rend amis de Dieu et prophète. Au contraire, il y en a qui ne reçoivent le don de prophétie que pour le bien d'autrui. Ils sont alors comme les instruments de l'action divine. Saint Jérôme écrit « Prophétiser, faire des miracles, faire des miracles, chasser les démons, sont parfois autant d'actes charismatiques qui ne sont pas dus au mérite de ceux qui les produisent, mais ou bien ils relèvent du Christ dont on a invoqué le nom, ou bien ils sont accordés pour la condamnation de ceux qui invoquent ce nom et pour l'utilité de ceux qui les voient et les endurent. » Vous voyez que cet ad secundum est très intéressant parce qu'il nous montre que le donum prophétiae peut être entendu de deux manières. Il peut être entendu d'abord pour l'éclairage de celui qui le reçoit. Et aussi pour l'éclairage des autres. Il semble bien, vous voyez, quand la Très Sainte Vierge apparaît, c'est pour le voyant. C'est un charisme, c'est pour le voyant. La Sainte Vierge sanctifie les petits qui sont... et qui peuvent devenir prophètes à partir de là, parce qu'ils peuvent transmettre quelque chose qui n'étaient pas connus avant. Donc ils deviennent prophètes. Mais ils sont prophètes de façon très particulière parce que la Sainte Vierge les sanctifie d'abord en premier lieu. Puis ensuite, c'est l'utilité de l'Église. C'est d'abord la sanctification. Vous voyez, alors c'est la première manière de regarder le don de prophétie. Parce que saint Thomas dit qu'il y a deux manières de la regarder. Alors. Seconde objection. Les secrets ne sont révélés qu'aux amis, d'après saint Jean. Je vous appelle amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Or Dieu a révélé ses secrets aux prophètes, comme on lit dans Amos. Les prophètes sont donc les amis de Dieu, ce qui ne se peut sans la charité. Et celle-ci suppose la grâce sanctifiante. Alors, réponse.
Commentant la parole citée de saint Jean, saint Jérôme écrit « En aimant les secrets célestes qui nous sont révélés, nous connaissons déjà ces secrets aimés. » Donc en aimant les secrets célestes qui nous sont révélés, nous connaissons déjà ces secrets aimés. Car l'amour lui-même est une connaissance. Jésus a donc fait connaître toutes choses à ses disciples, parce que délivré des désirs terrestres, il brûlait des feux du suprême amour. En ce sens, les secrets divins ne sont pas toujours révélés aux prophètes. Les secrets divins sont révélés en premier lieu au don de sagesse. Il ne faut pas l'oublier. C'est le don de sagesse qui nous fait comprendre les secrets de Dieu, en premier lieu, plus que les prophètes. Les prophètes, c'est beaucoup plus des événements. Vous voyez, c'est la différence entre le don d'intelligence et le don de sagesse et le don de prophétie. Le don de prophétie n'est pas donné en premier lieu pour que nous recevions les secrets de Dieu. Oui, c'est sûr. Mais oui, mais faisons attention. Hein. Oui, non, parce qu'ici deux textes de saint Jean, je crois. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Vous voyez, c'est le premier texte. Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est en réponse à ça. C'est en réponse à ce texte-là. Oui. Donc, au fond, les amis, c'est la grâce sanctifiante et c'est le don de sagesse. Il est bien évident que c'est les amis qui lisent la parole de Dieu en profondeur. Vous voyez, une lecture mystique de la parole de Dieu relève du don de sagesse et du don d'intelligence et non pas du don de prophétie. Pas du tout, c'est pas du tout le don de prophétie. C'est le don d'intelligence et le don de sagesse. Le don de prophétie est beaucoup plus par rapport aux événements, vous voyez, à l'archaïque, aux événements. Un événement très important, c'est presque toujours comme ça, on l'avait vu, la prophétie typique, hein, c'est toujours les futurs contingents. Mais ce n'est pas par rapport au mystère de la parole de Dieu. Au mystère de la parole de Dieu, découvrir les significations profondes du mystère de la parole de Dieu relève du don d'intelligence et du don de sagesse. Tous les deux qui sont liés à la grâce sanctifiante. Oui. Et on comprend très bien. Oui. Quand saint Thomas nous dit qu'il y a trois types de prédications, je vous l'ai déjà dit, mais c'est toujours important de l'entendre, hein, surtout pour les futurs prédicateurs. Hein. Alors, il y a trois sortes de prédications. Il y a la prédication au bon peuple de Dieu. Non, la prédication à ceux qui sont en train de se convertir. Alors, c'est la catéchèse. Ce que saint Thomas appelle la catéchèse. Il y a la prédication, alors on les aide à enlever toutes les objections, et un peu d'apologétique. Quoi. Il y a la prédication au bon peuple de Dieu, les curés. Les curés doivent donner la prédication au bon peuple de Dieu, les exigences normales de la vie chrétienne. Rappeler les commandements de Dieu. Et puis à la prédication aux âmes consacrées, où on communique les secrets. Et communiquer les secrets-là relève du don d'intelligence et du don de sagesse. Parce qu'autrement, vous comprenez, une communauté de contemplatives carmélite écrirait à un père de saint Jean en disant « Est-ce que vous pourriez me prêcher la retraite ?» Ce bon père humblement répondrait « Écoutez, je regrette, je ne suis pas prophète, je ne pourrai pas vous communiquer les secrets de Dieu. » Alors, il n'a pas le droit de dire ça. Parce que s'il est fidèle, en tant que fidèle, il a une lecture de la parole de Dieu dans la lumière du don d'intelligence et du don de sagesse. Et donc, il peut communiquer les secrets. C'est évident qu'on communique la parole de Dieu. Mais on donne une signification à la parole de Dieu toujours plus profonde. Et c'est ça les secrets. C'est la profondeur dans l'amour de la signification de la parole de Dieu. Quand saint Thomas dit que toute parole divine spire en sa morène. Toute parole de Dieu spire l'amour. Et dès que je découvre que la parole de Dieu spire l'amour, je découvre que la parole de Dieu est porteuse d'un secret qui touche mon cœur. Alors, voyons encore les deux dernières objections. Le Seigneur dit en outre dans Matthieu, Défiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous revêtus de peaux de brebis et qui, à l'intérieur, sont des loups ravisseurs. Et on retrouve l'extérieur et l'intérieur comme pour Jacob. Hein. Voyez bien, les faux prophètes qui viennent à vous revêtus de peaux de brebis, là, c'est l'inverse qui se passe, et qui, à l'intérieur, sont des loups ravisseurs. Donc Jacob n'est pas un loup ravisseur, vous voyez. Mais ceux qui n'ont pas la grâce intérieure ressemblent à des loups ravisseurs. Là sont donc tous, ils sont donc tous de faux prophètes. Nulle part suite ne peut être un vrai prophète s'il n'est préalablement disposé par la grâce. Réponse. Les méchants ne sont pas tous des loups ravisseurs, mais seulement ceux qui cherchent à nuire au prochain. Les docteurs catholiques, dit en effet Saint Jean Chrysostome, même s'ils ont perdu la grâce, sont appelés, certes, des serviteurs de la chair, mais ne sont pas pour autant des loups ravisseurs, car ils n'ont pas de dessein de perdre les chrétiens. Mais la prophétie étant destinée au bien d'autrui, il est manifeste que les faux prophètes ont ce mauvais dessein et méritent d'être appelés aux loups ravisseurs, car ce n'est pas dans ce but qu'ils ont reçu mission de Dieu. C'est facile à comprendre. Son commentaire sur Saint Jean, il reprend toutes ces questions-là, que les pères de l'Église avaient beaucoup développées. C'est dans la parole du chapitre 10 que nous avons vu. Hein. Il y a le mercenaire, il y a le loup ravisseur, il y a le loup, il y a le voleur. Il y a toute une série de choses différentes qui, selon les pères de l'Église, montraient toutes les luttes par rapport à l'Église. Et Saint Thomas reprend ça dans son commentaire de Saint Jean. Enfin, le philosophe écrit que si la divination des songes vient de Dieu, il ne convient pas qu'elle soit accordée à n'importe qui et non pas au meilleur. Or, il est certain que la prophétie vient de Dieu. Le don de prophétie ne peut donc être attaché qu'aux hommes, les meilleurs. Les dons divins ne sont pas toujours donnés aux meilleurs, dans le sens absolu du mot, mais parfois seulement à ceux qui sont les plus aptes à les recevoir. Ça, c'est très important. C'est très important comme notion de Saint Thomas ici. Dona Divina, même Saint-Père d'Antour, optimis simpliciter, sed quamdoque alis, puissant optimi quantum ad talis doni perceptionnel. Vous voyez, ils sont donnés non pas au meilleur d'une façon absolue, mais au meilleur en tant que vers la perception de tel don. On traduit, mais à ceux qui sont les plus aptes à les recevoir. Hein, vous voyez, on tourne un petit peu la difficulté. Meilleur en tant que vers la perception de tel don. Et ainsi que Dieu confère la prophétie à ceux auxquels il juge meilleur de l'accorder. C'est pas tout à fait le sens de la chose, mais il donne donc à ceux qui sont le plus capables de recevoir, et par le fait même aussi de transmettre. Vous voyez, autrement dit, ça c'est très curieux. On voit Dieu du traité de la grâce. La grâce est donnée non en fonction des qualités de la nature. Saint Thomas, Saint Jean le dit dans son prologue, qu'ils sont nés de Dieu, non à cause de la volonté de l'homme, non à cause de la volonté humaine, non à cause de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair. Il en donne trois, pour bien montrer la gratuité absolue de la grâce. Donc la grâce ne nous est pas donnée parce que nous avons une bonne intelligence. La grâce ne nous est pas donnée parce que nous avons une bonne volonté. Une bonne volonté, c'est-à-dire une volonté parfaite. La grâce ne nous est pas donnée parce que nous avons telle ou telle qualité artistique. Dieu ne cherche pas particulièrement les artistes pour nous donner la grâce. C'est la gratuité absolue. Donc, aucune commune mesure entre les deux. Aucune. Ce qui est très curieux, quand il s'agit des dons gratuits, charismatiques, Satan souligne que c'est normalement qu'ils sont donnés non pas aux meilleurs, mais ceux qui sont les plus capables de recevoir. La notion d'efficacité intervient lorsqu'il y a des charismes. Ça, c'est étonnant. Étonnant, c'est de l'ordre de l'utilité. Oui, cette chose très curieuse. Il y a deux points de vue là qui jouent un rôle important. Donc, les grâces sont plus chères. Et données absolument au-delà. Il y a une transcendance absolue. Quand il s'agit des charismes, on dirait, mais c'est encore plus gratuit. Non. Il y a du côté des charismes, de fait, Dieu se sert plus des qualités de la nature humaine. Et voyez ce qui fait que de temps en temps, c'est quelquefois très difficile de savoir si on a des petits charismes. Il y a des aptitudes humaines qui sont comme ça. Il y a des gens qui guérissent naturellement. Il y en a, on va dire, des gens qui ont des dons de guérir. Si vous avez 100 dans mon histoire, il y en a un ou deux qui sont malades, je vois tout de suite. Alors ne vous inquiétez pas. À la fin du cours, ça sera mieux. Je vais faire jouer mon magnétisme sur vous, et ça ira beaucoup mieux. C'est très difficile, vous voyez, c'est très difficile de voir si on a affaire à quelqu'un qui a des dons naturels ou si c'est vraiment un don surnaturel. Quand il s'agit, hein, puisqu'au fond, selon saint Thomas, et je crois que saint Thomas le touche quelque chose de profondément vrai. Quand il s'agit des charismes, Dieu fait plus attention aux aptitudes naturelles que lorsqu'il s'agit de la grâce sanctifiante. Et vous voyez pourquoi? Parce que les charismes sont plus ordonnés vers l'efficacité, et comme la grâce ne supprime pas la nature mais se sert de la nature, on comprend très bien, pour que l'efficacité soit plus grande, il faut nécessairement que les charismes soient donnés à ceux qui ont des aptitudes plus grandes. Comme la grâce sanctifiante, elle ne cherche pas du tout l'efficacité, c'est pas ça qu'elle cherche en premier lieu, c'est l'amour. C'est l'union affective. C'est ça que la grâce sanctifiante cherche en premier lieu. L'union affective avec le Christ. Avec le Christ. Bien, cette union affective, elle nous est donnée directement par la grâce. La nature ne peut pas. Donc, la nature joue moins. Ça, c'est une remarque intéressante, je crois, hein, point de vue pratique. Article 5, la prophétie peut-elle venir des démons? Ça. Oui, alors, c'est surtout les saints qui ont des charismes, pas toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Pas toujours, mais ils ont des charismes, vous voulez dire pas toujours. Je n'oserais pas le dire de façon absolue que par leur prière, voyez Marthe, c'était sa prière. Ce n'est pas du tout la position humaine.
Oui, c'était la prière. Je prierai la Vierge Marie. Grâce sanctifiante. Oui. Alors, il y a ce fait que je vous avais souligné la dernière fois et qui est sûrement très important. Je pensais le reprendre à la fin, mais je peux le dire tout de suite. Vous voyez, c'est que saint Thomas souligne que dans le Christ, où il y a la plénitude de grâce, il y a la plénitude des charismes. Donc, dans le Christ, il y a l'unité entre la grâce sanctifiante et le charisme. Vous voyez ? Donc, il y a ce que nous devons voir, c'est la distinction, sans avoir du tout d'opposition. Vous voyez ? Mais une distinction. Et pas une commune mesure entre les deux. Mais, autrement dit, il pourra se faire très bien que certains saints seront des saints cachés, sans aucun charisme. Et ce sera après leur mort qu'on découvrira la chose. C'est pas impossible. Moi, c'est mon religieux. Qui sont très cachés. Et quand on va retrouver la sainteté, on ne peut pas leur dire si c'est très, très gênant, si vous voulez. Si pendant l'oraison, au matin, il y a des orioles qui poussaient, voilà. Et tout d'un coup, 80. C'est extraordinaire, tu vois. Et des lévitations. On verrait ça tout d'un coup. Alors, le frère prieur ferait attention d'arrêter l'oraison au moment où la lévitation est terminée, parce qu'autrement, ça ferait des chutes. Des hommes particuliers. Si on arrêtait l'oraison, au moment où il est suspendu. Donc, là, c'est le charisme. Je vois qu'il viendrait. Oui. C'est ça que je vous dis. C'est ça que je vous dis. C'est d'après ce que dit ça. Moi, ça m'éclaire beaucoup, ça. Parce que dans les charismes, on a tous rencontré dans notre vie des gens qui avaient un charisme de guérison. Il y en a. Vous n'avez pas encore rencontré ? Oh, mais je vous en fais connaître. Il y a des gens qui ont des charismes de guérison. Ça, on ne peut pas nier. Alors, ça ne réussit pas tout le temps. Oui, ça ne réussit pas tout le temps. C'est ça qui est très mystérieux. C'est jamais universalitaire. C'est pour tel ou tel. Alors le pauvre type qui est qui. On a tous rencontré donc des gens qui avaient des grâces de guérison. Est-ce que c'est une grâce naturelle ou est-ce que c'est une grâce charismatique? C'est la question posée. Je crois que celui qui exerce peut, d'une certaine manière, savoir, mais comme pas toujours, puisqu'on peut se servir d'un carré sans le savoir. On peut prophétiser sans le savoir. On peut guérir quelqu'un sans le savoir. Alors à ce moment-là, est-ce que c'est le don naturel ou est-ce que c'est le don surnaturel? Très difficile. Vous voyez, et je crois que ça, c'est une des raisons profondes au point de vue prudentiel. Vous voyez, je vous ai déjà dit, j'ai vu à Rome la manière dont quelqu'un de très sérieux, puisqu'il est chargé de ça, quand on donne des écrits, les gens qui disent j'ai reçu ça dans l'oraison. J'ai eu des locutions. Alors, ils regardent le contenu. Si le contenu peut être dit par des grâces d'oraison ordinaire. Il dit que ce sont des locutions, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Parce que tout peut s'expliquer par des grâces normales. Mais c'est très très fort comme critère. Hein. Et je crois que c'est utile de se rappeler ça. Oui, parce que ça montre la prudence entre le passage, entre ce que représente la grâce sanctifiante avec les dons d'intelligence et les dons de sagesse. Le don d'intelligence et les dons de sagesse nous donne un sens profond de la parole de Dieu. Dans la prière, Dieu peut nous donner des lumières. relevait entièrement du don d'intelligence et du don de sagesse. Ne disons pas qu'il y a une locution spéciale de Dieu. Ce serait un charismatique. Ce serait un charismatique si intéressant. Ne disons pas ça trop vite, vous voyez. Pour les écrits, par exemple, hein, on voit très bien des écrits en disant attention, parce que ça peut être tout simplement le fruit d'une oraison très intense. J'ai vu le critère, j'ai donné des centaines de pages écrites par quelqu'un qui, je suis persuadé, est très aimé de Dieu, mais qui croit que c'est un peu prophétique. Je crois que ça vient d'une locution spéciale de Dieu particulière. Bien, le critère a dit ça. Est-ce qu'on peut tout expliquer? Et si on peut tout expliquer par la grâce sanctifiante, on ne peut rien dire d'autre. Alors vous voyez, pour les charismes, si on peut les expliquer par des dons naturels, attention, ne disons pas trop vite que c'est le charisme. Ne disons pas trop vite. Il faut être attentif et prudent. Oui. L'exemple du petit de ce matin. Du charisme, vous savez, du charisme. C'est exemple merveilleux. Ah, vous étiez, voilà, oui. Oui, la quantité qui diminuait. N'est-ce pas? Alors, c'est un cas tout à fait particulier, ça. Et merveilleux, ça. On est, alors, oui, dites. Il peut y avoir les deux. Il peut y avoir les deux, comme il peut très bien. Oui. C'est un charisme, c'est de l'ordre de l'utilité. Et si ça sanctifie, c'est pas charismatique. Mais voyez, est-ce qu'on peut dire une prière charismatique? Moi, je dirais tout simplement, c'est la prière des saints a un pouvoir extraordinaire et une efficacité merveilleuse. C'est la prière des saints. Je ne dirais pas que c'est une prière charismatique. Il n'y a pas parmi les charismes la prière. La guérison d'elle-même, oui, mais la guérison d'elle-même, faisons attention, elle est le fruit d'une prière. Et quand elle est le fruit d'une prière, on ne peut pas dire qu'elle est charismatique. Je ne crois pas. C'est mystérieux. Hein. Alors je sais très bien, parce qu'on dira que. Moi, je crois que c'est plutôt. Étant donné le fruit de la prière, on dira que cette prière est une prière de saint. Oui, il y a un très grand amour divin. On ne dira pas nécessairement qu'un charisme de guérison. Oui.
Dans
le jour
où
il passe
le Saint-Denis prophète
n'est
pas forcément sûr.
Dans la mesure où vous n'êtes pas sûr. Ah, mais non, pas sûr, c'est sûr. C'est pas parce que vous êtes prophète que vous êtes sauvé.
Qu'est-ce qu'il
veut dire? Ah, il faut sanctifier. Il doit sanctifier. Donc, vous vous sentez prophète, c'est... Alors, vous, à ce moment-là, vous vous sentez, vous vous sanctifiez. On se sanctifie. C'est la voie normale. La voie normale, c'est la croissance de la sanctification. Il n'y a pas de voie anormale ou charismatique de la sainteté. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de voix charismatique de la sainteté. Oui.
Est-ce que celui qui a conscience et qui exerce un charisme peut discerner si son charisme est bien du démon ou de...
Celui qui a conscience. Vous voyez, conscience. Moi, je verrai un petit peu, j'essaierai d'étudier très qu'est-ce que c'est que cette conscience. Est-ce qu'on peut s'auto-subjectionner? Les auto-subjections, j'ai entendu. Le matin, tous les matins, je rends mes voix. Et c'est des voix. Alors, je m'invite à écrire. J'entends des voix. Et j'ai conscience. En disant, ceux qui reçoivent ça sont très convaincus que c'est de Dieu. C'est plutôt à côté de dire attention, est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que c'est votre imagination? Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas votre imagination? Un fruit extérieur, dans quel sens? Dans le sens de la prière. On prenait la prière. une prière très, très, très puissante. Bien évident, une prière sainte, qui est efficace, l'efficacité de la prière, c'est-à-dire la guérison, c'est un signe. C'est un signe, c'est pas plus, c'est pas de conséquence nécessaire, je peux pas le dire. Il peut avoir une coïncidence. Il peut avoir une coïncidence. On ne peut pas dire d'une façon absolue. On voit ça, je l'ai vu plusieurs fois, des coïncidences qui sont extraordinaires, qui sont bouleversantes du reste comme coïncidence. C'est un signe, pas plus. Bon. C'est simplement pour souligner cette parole. Moi, elle me semble intéressante chez saint Thomas. C'est intéressant de voir ça. Donc, les prophéties peuvent-elles venir d'aider ? On lit dans l'Écriture, rassemble tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, ainsi que les 350 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astrée qui mangent de la table de Jézabel. Or, ces cultes étaient ceux des démons. Il semble donc qu'une certaine prophétie puisse venir aussi des démons. Alors, voici l'article de saint Thomas, l'argumentation de saint Thomas. Ainsi qu'on l'a dit, la prophétie implique la connaissance de réalités qui sont éloignées de la connaissance humaine, donc, que normalement la connaissance humaine ne peut pas atteindre. Or, il est évident qu'une intelligence de l'ordre supérieur peut connaître ce qui est caché à la connaissance d'une intelligence inférieure. Au-dessus de l'intelligence humaine se trouve non seulement l'intelligence divine, mais aussi, selon l'ordre de la nature, celle des bons et des mauvais anges. Ainsi, les démons connaissent-ils, même par leur faculté naturelle, certaines choses qui sont cachées à la connaissance des hommes. Ils peuvent les leur révéler. Mais ce qui est absolument et souverainement au-dessus de nous, Dieu seul le connaît. C'est pour cette raison que la prophétie proprement dite ne saurait venir que de la révélation divine. Toutefois, la révélation faite par les démons peut, sous un certain rapport, être appelée prophétie. Ainsi, ceux à qui les démons font une révélation ne reçoivent-ils pas le nom de prophète, tout court, mais on leur adjoint un qualificatif. On dit par exemple « faux prophète » ou « prophète des idoles ». Lorsque l'esprit du mal, dit saint Augustin, ravit l'homme jusque dans des visions, il en fait des démoniaques, des possédés et de faux prophètes. À propos de ces choses charismatiques, c'est vrai, on m'a raconté, c'est le cardinal Philippe qui me racontait cette chose-là, où il était envoyé en mission auprès de religieuses. On disait qu'il y avait une religieuse qui avait le jeudi soir, en union avec la passion du Christ, prier avec une telle intensité qu'il y avait une sueur de sang. Tout le couvent était ému, mais on avait cette sueur de sang traditionnellement dans cette sueur de sang. Et on mettait de la ouate pour recevoir ces gouttes de sang, et la ouate brûlait. Le sang jaillissait, brûlait. Alors, on a demandé une visite à Rome pour savoir si c'était authentique ou pas authentique. Et c'est le cardinal Philippe qui est allé à ce moment-là. Il m'a raconté la visite. Écoutez comment ça s'est fait. On a fait simplement l'épreuve de l'obéissance. Et on a vu que la religieuse n'obéissait pas. Alors aussitôt, il dit attention. Et on a fait les exercices. Il y a eu du fracas. Il s'est aperçu que c'était le démon. Simulacre. Alors, vous voyez comme c'est difficile. Hein. Les singeries des charismatiques. C'est dit dans l'Apocalypse. Le démon fera des choses aussi étonnantes. Hein. Des choses aussi merveilleuses. Donc, à l'intérieur des charismes, discernons les charismes qui sont bons et les charismes qui peuvent être faux. Les fausses prophéties. J'en citerai des quantités de cas comme ça, parce qu'on en apprend toujours, hein. C'est évident, ça fait partie, j'allais dire, du patrimoine apostolique. C'est comme d'un certain temps, on voit combien c'est délicat ces choses-là. C'est délicat et combien il faut tout le temps venir à la grâce sanctifiante. Tout le temps. Et la grâce sanctifiante, c'est la foi. Ça, c'est le grand, grand point de vue de Saint Jean de la Croix. Et c'est le grand point de vue de l'Église. Hein, c'est le grand point de vue de l'Église. Il faut tout le temps venir à ça. Il ne faut pas se laisser impressionner par les effets. Le démon peut faire des choses qui sont admirables, admirabilis, hein, étonnantes, des choses qui dépassent le point de vue ordinaire. Il s'amuse.